Savoigny. Cette semaine, en partenariat avec France 5, France Culture propose la rencontre de Jean-Noël Jeannet avec Anne Pinjot. Ce soir, une vie de musée.
Anne Pinjot, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
J'ai plaisir à vous retrouver pour cette deuxième émission. Je reviens à votre carrière professionnelle parce que, à propos du droit, j'observe que François Mitterrand vous écrit le 13 octobre 1971 « Tu vas passer près d'une semaine à préparer l'examen du professorat. Je serais ravi que tu y réussisses, mais moins que tu y persévères. »
Ah ben voilà.
Je me suis fait à l'idée qui m'exalte et m'émeut que je pourrais t'aider dans tes premières démarches intellectuelles, ça c'est le côté Pygmalion, vers la connaissance du droit, c'est-à-dire d'un code social, avec ce qu'il faut en prendre et en rejeter. L'histoire d'une société, ses mots de passe, ses interdits, sa stratification écrite, avec toujours nécessairement un bon siècle de retard sur l'évolution des faits et des mœurs, c'est bon et utile à pénétrer, comme c'est bon plus tard. Cela nous renseigne peut-être sur certains aspects de François Mitterrand, ça nous confirme. Comme c'est bon plus tard d'en dominer et d'en refuser l'enseignement, comme c'est nécessaire tout de suite d'en accepter la logique et le déroulement. Il vous disait ça, oralement
oui,
aussi.
Oui, mais c'est lui qui a choisi mes travaux pratiques, parce que j'étais en Italie à ce moment-là. Il fallait donner une réponse, et donc c'est lui qui a choisi.
Oui, il fallait avoir votre numéro de sécurité sociale.
Oui, mais il aussi...
il le cherche, il le trouve.
L'histoire du droit, l'histoire des institutions, et c'était le droit constitutionnel, je crois. Enfin, les deux choses qui l'intéressaient, qui sont d'ailleurs passionnantes.
Je reviens à votre carrière professionnelle, parce que pour acquérir cette indépendance, passionnément cherchée par vous, à la fois par rapport à votre famille et probablement par rapport à François Mitterrand, vous passez le concours de conservateur des musées. Et deuxième occurrence, vous réussissez. On voit dans cette correspondance avec François Mitterrand, on voit refléter le bonheur que cela vous donne. Enfin, libre.
Libre, indépendante, avec un statut social acceptable, même à Clermont-Ferrand. C'était vraiment une des plus grandes joies de ma vie avec la naissance de Mazarine. C'était vraiment les deux choses importantes.
Il y a un lien, non, entre cette indépendance et la naissance de Mazarine.
Et comment, oui, rapide. Un lien rapide. Mais, enfin, rapide, non, il y avait d'abord que je puisse m'acheter mon petit appartement. Ne pas dépendre d'un propriétaire, ne pas avoir quelqu'un qui marche sur la tête. Est arrivée cette chose bénie, c'est-à-dire la crise du pétrole de 1973, où tout était à vendre. Mais pour rien. C'était une chance, c'était la seule bonne affaire de ma vie. Parce que trouver dans le cœur de Paris le début de mon petit grenier pour 60 000 anciens francs, c'est vraiment une affaire prodigieuse. Et là, c'était la liberté complète. Donc, un métier que j'aime, avec un patron lointain, puisque c'est l'État, la rentrée dans un monde merveilleux qui est le monde des musées. Toutes les œuvres d'art sont là, pour vous. Je me souviens, le premier jour où j'étais seule dans la grande galerie du Louvre, le jour de fermeture, être seule avec tous ces chefs-d'œuvre, c'est des joies ineffables. Et donc, à partir de là, ayant ma petite maison, je pouvais enfin aborder le côté enfant. Mais oui. je pouvais assumer.
Donc il y a un lien étroit entre cette liberté que vous donne votre métier et le choix que vous avez fait.
Et comment
de donner naissance.
Mais il était d'accord pour un enfant. Il était d'accord.
Mais restons, si vous voulez bien, Anne Pinjot, restons sur votre itinéraire professionnel qui a été reconnu de partout comme hors de pair. Je me suis référé au mélange Anne Pinjot, cet ensemble d'une cinquantaine d'articles donnés, écrits, rédigés en votre honneur au moment où vous avez quitté le musée d'Orsay et qui manifeste avec un éclat vraiment rare tout ce que vous avez pu apporter à ce musée, en particulier à l'histoire de la sculpture au XIXe siècle.
Et vous voyez comme du mal sort un bien. Quand j'ai été nommée au département des sculptures du Louvre, c'était mon ancien professeur qui le dirigeait à l'époque, c'était M. Thirion, je ne m'intéressais qu'au Moyen-Âge. Puis j'avais fait mon mémoire d'école du Louvre au musée de Cluny, dans les sous-sols de ce qui est maintenant les Bernardins. Il y avait les pompiers au-dessus et dans les sous-sols des Bernardins, avec une humidité à 80%, tous les originaux des chapiteaux de la Sainte-Chapelle, de Notre-Dame, tous les originaux sous Louis-Philippe avaient été mis là. Il n'y avait pas d'électricité, donc j'avais une lampe tempête. Et je posais mon papier qui, au bout de 20 minutes, était mou tellement c'était... Je faisais pas de photos parce qu'à l'époque, tout ça était cher. Donc, je faisais des dessins. Donc, j'ai dessiné tous les chapiteaux. Et ça a été, c'était mon travail, donc je m'intéressais au Moyen-Âge. Quand j'arrive au Louvre, Jacques Thirion me dit « Mais il n'est pas question de vous occuper du Moyen-Âge. Vous allez prendre ce que personne ne veut, le 19e siècle. » Et le 19e siècle, on m'avait appris que c'était un siècle abominable, un siècle que de copies, avec aucune créativité, que c'était un siècle à détruire le plus possible, et en commençant par le mépriser. Et moi, j'étais tout à fait désespérée de quitter mon cher 12e siècle, 13e siècle. Et ce qui était donc un malheur, s'est révélé une chose extraordinaire, c'est que le goût a changé. Le goût, il est venu des États-Unis, où les marchands savaient qu'il y avait une manne de sculptures du 19e siècle, que personne n'y connaissait rien, et qu'il était intéressant de faire des études. Et donc, certains professeurs américains, Johnson, Peter Fusco, ont commencé à étudier ce 19e siècle que personne ne connaissait. Donc, les choses arrivent quand même en France, et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des artistes, qu'il y a un art. Bon, les artistes, les seuls qu'on connaisse, c'est évidemment Carpeaux et Rodin et Maillol. Bon, mais on ne connaissait pas les autres.
Pompon, Crélière, Camille Claudel vous doivent...
Tout ça, c'était dans des réserves, dans des puits de basse-fosse. Et on commence, on a eu la chance, un, de créer un instrument, parce qu'il y avait, moi je suis arrivée au département des sculptures de Louvre, il y avait une chemise de 0,4 mm sur carpeau, point. Rien d'autre, rien. Il fallait tout construire. Ça veut dire, justement, cette fois-ci, on photographier les œuvres, faire des dossiers d'artistes, aller aux archives, retrouver les commandes. C'était un travail d'archéologue, comme si vous alliez creuser la terre ou à peu près.
Vous inventez ces personnages au sens archéologique du terme, vous les faites ressurgir.
Mais ça a été passionnant de partir de quasiment zéro pour remonter. C'était une immense époque de sculpture, le 19e siècle en France. Vous n'avez pas un bâtiment public qui ne soit couvert de sculptures au 19e. Vous n'avez pas une mairie, vous n'avez pas les monuments publics et les grands hommes. Enfin, ça a été une immense époque de sculpture comme au 13e siècle. Sauf qu'on ne connaissait rien, qu'on regardait avec justement les yeux du mépris, donc on ne savait pas voir, puisqu'on voit avec ce qu'on sait. Et qu'on ne savait rien. Et là, cette quête a entraîné tout un petit... Attendez, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Parce que je n'ai pas été toute seule pour faire ça. Là, on a mes trois amis qui m'ont offert ce dessin pour mes 50 ans. Donc, Laure de Margerie, qui est maintenant aux États-Unis, elle fait ce qu'on a fait en France avec elle pour les États-Unis. Donc, elle fait une recension de toutes les sculptures françaises dans les collections public. Catherine Chevillot, qui a aussi été une extraordinaire chercheuse, elle est maintenant la directrice du musée Rodin. Et Antoinette Lenormand Romain, qui a aussi, après Orsay, est allée au musée Rodin et qui a dirigé l'INHA, ce qu'a voulu André Chastel, c'est-à-dire... Donc, ça a été...
L'Institut National d'Histoire de l'Art qui jouxte la Bibliothèque Nationale de France, le site Richelieu.
Et donc, ça a été à la fois une amitié et à la fois un travail collectif qui a abouti à ce fameux musée d'Orsay. Donc, la chance de créer un instrument de travail, la chance de transformer cette gare qui a failli disparaître en musée. Pourquoi on l'a transformée en musée? Parce qu'il n'y avait plus de place pour les impressionnistes au musée du Jeu de Paume. On avait, après la guerre, séparé l'histoire de l'art en deux. Il y avait les impressionnistes, autrefois méprisés par l'art officiel, on ne montrait qu'eux, et tout l'art officiel dans les trous. On ne les voyait nulle part. Moi, je l'ai découvert aux États-Unis. J'étais sidérée, je n'avais jamais vu ça. C'était tout à fait étonnant. Et Michel Laclotte et Pierre Rosenberg qui se baladaient devant le Louvre.
Deux présidents directeurs successifs du Louvre.
Du Louvre, mais à l'époque, ils étaient au département des peintures du Louvre, qui se baladaient le long de la Grande Galerie et qui voyaient cette gare immense, vide. Ils se disaient, mais ce n'est pas possible, il faut qu'on annexe. Il faut qu'on annexe.
On a failli la détruire pour mettre des boîtes d'allumettes de Guillaume Gillet.
Oui, il y a eu un concours. Les monuments historiques ont accepté la démolition. Je ne sais pas si vous avez vu le lauréat, mais c'est terrible. Et le projet de Le Corbusier n'était pas plus réjouissant. Donc, ça a été sauvé par les Halles de Baltar. Quand on s'est rendu compte que les Halles, c'était une grosse, grosse bêtise d'avoir enlevé ce qui était encore plus intéressant. C'était beaucoup plus intéressant encore, c'est les Halles de Baltar. C'était sous Napoléon III, c'était la statue de fer, c'était...
C'est un chagrin qui n'a pas disparu.
Oui, ils se sont rendus compte qu'une deuxième bêtise, il ne fallait peut-être pas la faire. Et ça, c'est sous Pompidou. Et c'était Duhamel qui a été convaincu.
Ministre de la Culture, Jacques Duhamel.
Voilà, il faut lui rendre cet hommage, hein, convaincu. Et Michel Laclotte et Pierre Rosenberg qui ont donné toute la gomme qu'il fallait donner.
Et, vous avez...
et le moteur, c'était les impressionnistes. Parce que c'est pas pour la sculpture qu'on allait mettre la Garde d'Orsay, vous pensez bien. Uniquement les impressionnistes. Bon, vous allez recevoir en don un Van Gogh, vous pouviez pas le mettre, il y avait pas la place. Enfin, c'était pas possible. Donc il fallait, alors que ce musée était délicieux, puisque le musée dans un jardin, c'était délicieux, mais on ne pouvait plus rester. Et puis l'histoire de l'art avait changé. On ne pouvait pas dire tout d'un coup, il n'y a que les impressionnistes et pas à côté. On se dit, le public, il est capable, on ne va pas mélanger, mais il est capable de voir et l'un et l'autre, de faire ses propres correspondances, concordances des temps, et de se dire que ça correspondait à un goût. Historiquement, ce n'est pas défendable de supprimer la production d'une époque. On ne peut pas. Donc, ça, c'était l'autre grande aventure de ma vie. Ça a été la création de la Garde d'Orsay. Parce qu'on était toute une équipe de jeunes. Il n'y avait pas de cadavres dans les placards. Ça a duré 13 ans. Mais c'était passionnant d'arriver à faire, d'abord, quelle serait la chronologie, qu'est-ce qu'on allait choisir, quel circuit faire. Un circuit impossible, parce que cet immense vaisseau, très beau, puisque c'était fait pour 1900. Donc le contenant et le contenu étaient de la même époque. Mais il fallait absolument privilégier la grande voûte.
Vous avez contribué au choix qui a été fait de
confier à Guy Arlenti. Il y a eu un concours qu'elle a remporté. Et ça a été très intéressant avec elle. Mais depuis, malheureusement, les derniers directeurs du musée d'Orsay ont détesté et tout ce qu'elle a fait va disparaître peu à peu. Là, on en est la dernière tranche. D'ailleurs, sur la tranche sur laquelle elle avait gagné le concours, qui va disparaître.
Qu'est-ce qui va disparaître?
Et par exemple, elle disait, l'architecte de la gare d'Orsay, c'est Victor Laloux, prix de Rome. Parce que pour la gare d'Orsay, les trains n'étaient pas du tout nationaux. C'était des compagnies privées. Donc, il y avait ces ruines, c'était des ruines de la Cour des Comptes, c'était quand même le reste de la guerre civile, au cœur de Paris, oui, de la Commune,
qui avait brûlé,
mais c'est resté comme ça pendant, depuis 71, jusqu'à 3 ans avant 1900, on s'est dit, en 1900, ces expositions universelles, qui font venir des millions de monde, ils vont voir encore ces restes, avec, il y avait des arbres, il y avait toute une végétation qui s'était développée, parce qu'il fait chaud au cœur de Paris. Alors, Alphonse Daudet, il place des personnages, là. Enfin bon, on ne va pas s'égarer. Donc, la compagnie d'Orléans lui dit, on lance un concours entre 3 prix de Rome pour faire une magnifique gare. Notre gare est à Austerlitz, c'est trop loin du centre. On attelle des petites locomotives électriques, qu'on appelle des boîtes à sel, qui vont tirer les trains des têtes couronnées du grand public jusqu'au cœur de Paris. On fait un magnifique hôtel de luxe. Les voyageurs sortent de leur train, ils ont en face d'eux le jardin des Tuileries, le Louvre, le Grand Hôtel. Donc, opération réussie.
Et c'est à partir de ces données architecturales qu'on a pu construire l'aventure du musée d'Orsay.
Oui.
Le moment de l'inauguration, Anne Pinjot,
mais
reste...
Avant l'inauguration, il faut dire une chose. C'est que la chance de la sculpture, c'était la grande voûte. Parce que cette grande voûte qu'on devait garder, on ne pouvait rien mettre dessous. Parce que la peinture, les objets d'art, la photographie, ça demande des conditions d'hygrométrie, de luminosité très précises. Qu'est-ce qui supporte tout ? La sculpture. Et donc la sculpture a un emplacement magnifique, un éclairage quasiment naturel, puisqu'à travers la verrière, il y a le soleil qui passe, et elle a le voyageur, le visiteur, encore tout frais. Et quelquefois, il regarde. Parce que les visiteurs, ils viennent voir quoi ? Les impressionnistes. Mais pour voir les impressionnistes, il faut avaler toute la longue nef avec les sculptures.
Et cela a été votre victoire en somme.
Voilà, c'était la grande victoire.
L'inauguration a laissé des traces. Il y avait à la fois le président François Mitterrand. On est en décembre 1986. On a invité le président Giscard d'Estaing. Le président Mitterrand a invité son prédécesseur, puisqu'il a joué un rôle important pour le choix qui a été fait.
Ah oui, parce que...
Il
a choisi de faire Orsay. Mmh. C'est fait sous Pompidou, mais voulu par Giscard d'Estaing et confirmé par François Mitterrand. Les grandes choses ont besoin de continuité.
Et il y a des photographies où on vous voit en tant que conservatrice, à la fois présente et discrète, mais très présente, aux côtés des officiels.
Nous, on devait chacun présenter quelque chose. Et moi, évidemment, on m'avait mis devant Carpeau, devant les 4 parties du monde soutenant la sphère céleste, pour expliquer.
Pygmalion avait... achevé sa tâche à ce moment-là depuis déjà longtemps. J'aimerais que nous revenions sur le temps des premières lettres, la période qui va de 1962 à 1964. Il y a peut-être là une clé à trouver de l'histoire qui vous a réuni, non ?
Oui.
Quand il explique dans des lettres qui sont prodigieusement confiante à votre égard. Pourquoi, à ce moment de sa vie, là, il a tant besoin de vous? Je voudrais en faire entendre la tonalité. Cette lettre du 6 janvier 1964. L'évolution que je sens en moi, le réveil de forces endormies, le besoin irrésistible de dépasser mes propres forces dans tous les domaines de la pensée et de l'action, ont coïncidé avec votre présence soudaine, imprévisible, avec le beau début de cette histoire. Oui, je traverse une crise qui me bouleverse. Vous m'aidez parce que vous êtes là, parce que vous êtes un point de repère, parce que vous jalonnez mon existence quotidienne de moments lumineux. Vous m'aidez à accepter de me battre et de souffrir. Et par un obscur pressentiment, vous m'aidez à servir l'idée que je me fais du monde et des hommes. Vous m'aidez à refuser un destin ordinaire. Ce qui ne veut pas dire atteindre une ambition, mais accomplir une tâche. Et ceci encore du 20 janvier 1964. Soyez remerciés de m'avoir permis de rêver et de rejoindre un pays intérieur dont j'avais perdu le chemin. À quoi mesurer l'importance d'un être? Vous ne saurez jamais combien vous comptez dans ma remise en ordre personnel. Et le 21 août 1964, si tu savais, mon âne, la plénitude et la confiance qui m'ont habité grâce à toi, confiance dans la générosité de la vie, plénitude de mes facultés, portée au meilleur d'elle-même et dans une incroyable harmonie. Nos rencontres, nos promenades, nos tendresses n'ont pas été que des échanges entre nous. Elles ont été pour moi une façon d'appréhender le monde, les choses, les êtres, l'action. Et d'une certaine manière, l'expression est sotte, mon âme. Tu m'as délivré de ce qui m'enrayait, me rouillait, me diminuait.
Vous comprenez que c'était décisif sur ma jeunesse. Parce que on est toujours enthousiaste, on est toujours prêt à partir pour les grandes causes. C'est une très grande cause, évidemment. Mais
avec le recul, vous considérez qu'il y a eu rencontre, en somme, entre ce qui a été votre histoire personnelle, l'émergence de cette histoire et ce moment spécifique de sa vie. Il avait traversé une lourde épreuve, avec en particulier l'affaire de l'Observatoire, où il avait été injustement accusé d'avoir, en quelque sorte, fomenté lui-même un faux attentat.
Oui, la droite a failli vraiment l'abattre définitivement. Mais c'était mal connaître cette énergie indomptable, c'est sûr. Mais quand même, ça a correspondu à un renouveau dont il avait besoin. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quand on est plus seul. Et ça, on l'a senti, chacun, pour soi. Tout d'un coup, il y avait une espèce de communion. C'est exaltant. Et ça donne confiance.
Vous avez été là, à ce moment-là.
Oui.
Si vous saviez, écrit-il le 13 avril 1964, comme j'ai appris à garder pour moi seul mes rêves. Cette impression qu'on a souvent à lire ces lettres, qu'il s'était un peu auto-cadenassé, que vous avez trouvé une clé. J'ai appris à garder pour moi seul mes rêves, mes ambitions, mes peines. Mêlé trop tôt à des collectivités indifférentes ou brutales, je pense que c'est une allusion en particulier à ces années de captivité.
Ah bah oui.
J'ai dû composer ma force autour d'un raidissement intérieur que rien ne pouvait fléchir. Exprimer ce que je possédais de plus authentique me semblait aveu de faiblesse. Et peu à peu s'est noué en moi un lacis de refus. Au milieu des passions et des intérêts, j'ai abrité le secret de mon être derrière un mur si haut et si épais que lorsque j'ai aimé, ou bien lorsque j'ai voulu convaincre, l'obstacle qui m'avait si longtemps préservé a fini par m'enfermer. Dans l'isolement où je m'étais complu, ni la joie ni la paix ne venaient plus me visiter. Avec vous, j'échange, je communique, je communie, je suis comme délivré.
C'est le ressort de l'histoire. Ça s'est fait pour ça, tout d'un coup, la confiance. La confiance, le renouveau. Bon, pour moi, c'était le nouveau, pour lui, c'était un renouveau. Et puis, des mêmes admirations pour tellement de choses. Et j'étais sidérée de ma vie austère hein, qui passait d'aller faire des colonies de vacances, d'aller faire le pèlerinage de Chartres à pied, enfin, des choses que je fais vraiment. Tout, ça me paraît, c'était une vie austère, mais qui correspondait à la vie que lui, il avait connue dans sa jeunesse, qui était tout aussi austère. Hein, quand il était au collège à 9 ans sans voir ses parents pendant 3 mois, c'était dur. Hein. C'était dur, c'était normal. À l'époque, c'était normal. Moi aussi, c'était normal. Mais ça permet de se comprendre, une correspondance.
En lisant ces lettres que François Mitterrand vous a adressées, on ne peut qu'être sensible à l'opposition entre, d'un côté, la distance d'âge, pouvait apparaître comme lointain, et en même temps ce qu'il y avait de commun dans vos origines, dans ce que vous avez en famille autrement façonné, c'est-à-dire un certain type de province, de
rigueur.
Tout à
fait. Il, en marche arrière, il retrouvait sa province. Cato, étroite.
Patriarcale, disiez-vous.
Patriarcale, dont il m'a sorti. Mais,
comme il s'en était sorti lui-même, peut-être.
Oui, enfin lui, avec la guerre, c'était autre chose. Hein. Tout d'un coup, se trouver prisonnier en Allemagne, quand on était un bon petit étudiant, c'est une autre vie, avec la rencontre des autres.
Avec cette brutalité qu'il évoque dans son propos. Anne Pinjot, votre présence, l'amour qu'il vous porte, lui donne, d'autre part, c'est l'impression qu'on a à lire ses lettres, une occasion de tenir au jour le jour, une sorte de journal de ses sentiments, à travers le goût qu'il a de vous en parler. Je vois qu'il écrit le 6 janvier 1964, et comme lecteur d'aujourd'hui, ça nous intéresse. Et ça nous protège d'ailleurs contre tout sentiment, je vous assure, de voyeurisme. Il écrit « Je n'ai jamais eu la patience de donner quotidiennement, à l'usage de qui que ce soit, mes observations et mes sentiments, pas même pour moi. Ce qu'il m'arrive de regretter quand je songe aux événements parfois historiques que j'ai vécus ou approchés. Ai-je donc changé? Et pourquoi, à votre propos, je ne suis pas pressé de répondre à ces questions? Il n'est pas nécessaire d'y répondre du tout. Seulement, quelle eau fraîche! Parlez à qui a la passion de connaître, de comprendre, à qui devine d'instinct ce langage, à qui cherche la rectitude de sa vie sans rien lui enlever de sa plénitude. Voilà mon bien précieux, mon bien qui vient de vous. »
C'est incomparable d'avoir l'impression du jour. Et c'était une des raisons, alors là aussi, qui moi me poussait de ce côté-là, de côté de la publication, parce que ça disparaît. Si on note pas au jour le jour, cette vérité immédiate, elle s'évapore.
Vous avez été aussi une sorte de truchement entre lui et lui-même.
Oui, c'est vrai.
Il parle pour vous et il parle aussi pour lui-même. Est-ce que ces citations, ce moment de notre conversation, Anne Pinjot, vous donne l'impression de redonner vie, de ressusciter quelque chose de ce que vous avez éprouvé à ce moment-là?
Eh oui, pourtant il y a plus d'un demi-siècle, quand j'ai retranscrit ces lettres, je revivais tout. Mais il y avait des choses que j'ai oubliées, il y a des choses que je ne retrouve pas. Il parle sans arrêt de la rue Levert. Qu'est-ce que j'allais faire rue Levert? Je n'ai pas retrouvé, je ne sais pas. Est-ce que c'était des croquis? Est-ce que c'était... Je ne sais pas.
Vous avez retapé vous-même sur votre ordinateur l'entièreté de ces plus de 1000 messages, documents et lettres.
Oui. Ça, c'était assez étrange hein, de revivre sa vie. En même temps, il y avait des côtés enthousiastes, enfin, merveilleux, parce que des grands souvenirs.
Il faut dire que nous ne rendrions pas de ces documents si nous donnions le sentiment que tout était gravité. Il en sort souvent une sorte d'allégresse, une sorte de joie de vivre.
Et puis quel humour! Ça, c'est une façon de séduire. Hein. Quel humour! Et il y a des lettres qui m'ont fait encore rire en les relisant.
Voulez-vous que nous en fassions profiter nos auditeurs?
Ouais, est-ce qu'ils le méritent?
Ça, c'est à vous d'en juger. C'est une lettre qui remonte au mardi 24 novembre 1964. En voici quelques extraits. « Ma chérie, je suis très content de moi. Songe-y. J'ai rendu le bien pour le mal. Il est 11h. Je suis rentré malgré un entourage tentateur qui ne m'a pas tenté du tout. » On peut observer de temps en temps, il aime assez vous dire que il passe parmi des jolies femmes.
Oui, oui.
Comme s'il utilisait le ressort du potentiel.
Il utilise tout. Il utilise tout, oui.
Il est 11h et je suis rentré malgré un entourage tentateur qui ne m'a pas tenté du tout. Et quand je pense qu'une... C'est vous qui avez voulu que je lise cela, Anne Pinjot. Et que je pense qu'une horrible guenon, qu'une production Gergovia, qu'une mégère ingrate me renvoyait à jeudi, on est mardi, en laissant ce mercredi tout vide, qu'une fille sans cœur, qu'une amoureuse de grand magasin, qu'une place de Jaude bachelière, avec mention. Qu'est-ce que c'est que la place de Jaude?
Ah, c'est à Clermont-Ferrand, c'est la plus grande place à Clermont-Ferrand.
Merci pour la note en bas de page. Qu'une cruncheuse ésotérique cruncheuse.
Le crunch, vous connaissez pas le crunch?
C'est le chocolat.
C'est un chocolat, oui. Ah,
oui. Une cruncheuse ésotérique m'abandonne, c'est écrit en lettres majuscules, tout un jour, sans s'occuper de mon chagrin, de mon ennui, de mon amour, qu'une Anna graillouteuse. Anna, c'est vous avec un H?
Avec un H, quand, oui, quand je suis méchante.
Qu'une bélisse sucrée, qu'un canard de Gédéon.
Gédéon, c'est maman.
C'est le surnom de votre mère. Qu'un canard de Gédéon, qu'une vierge veuve, qu'une veuve vierge vit sa vie sans même rougir du mal qu'elle fait à la malheureuse épave qu'il aime tout bêtement, moi, François, lettre majuscule, trahi, renié, poignardé, livré aux heures, aux minutes, aux secondes de l'attente, lettre majuscule, oui, quand je pense à tout cela, je dois reconnaître en toute humilité que je vaux 1000 fois, 100 000 fois mieux que toi, horrible guenon, production Gergovia, mégère ingrate, fille sans cœur, amoureuse de grand magasin, et la suite. Fin de citation, on pourrait continuer.
Oui, c'est bon. Pour moi, c'était irrésistible. Et j'ai quand même pas dû venir le voir le mercredi.
On espère bien, respectivement. Oui. Chacun son tour. Mais vous retrouvez aussi une certaine... certaine ambiance de gaieté partagée.
Oui, ce besoin de l'humour, de distance des choses, et puis de goût des mots. Tout ça, c'était un plaisir quotidien.
Il ajoute une blonde de 20 ans à ma gauche, une brune de 25 à ma droite, réputée jolie. Et moi, l'idiot, dans le sens de Dostoïevski, de quoi je parle? De l'amour. Et que le reste ne m'intéresse pas assez pour le préférer au sommeil. Et que tout change, tout naît, tout recommence, tout fleurit, tout ravit. Tout se fait à l'image de Dieu, tout sourit à la sève, tout chante, tout demeure, tout bondit d'allégresse, tout prête gravité suprême, quand on aime, point de suspension, et que le reste me fait bâiller. On comprend, à vrai dire,
oui.
Que recevant ces lettres, on comprend.
Oui, c'était... Vous comprenez, Merlin l'Enchanteur avec sa flûte qui emmène tous les enfants du village se noyer, enfin c'est parce que aux lettres, il faut ajouter la voix. La voix est un instrument de séduction incomparable. Là, entre les deux feux, c'était difficile d'échapper.
Lettres et téléphone.
Oui. Ou les conversations, la voix.
Eh bien, voilà un sujet que nous n'avons pas épuisé, donc je gage que nous y reviendrons demain, Anne Pinjot.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre enregistrée en 2016 par Jean-Noël Jeannet avec Anne Pinjot en partenariat avec France 5 à l'occasion de la diffusion du film François Mitterrand et Anne Pinjot, fragment d'une passion amoureuse. À voix nue, réalisation Anne-Laure Chanel, Thomas Jost, prise de son Jérémy Thuile, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, serait écouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.